Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans Le secret des sources et les coulisses de l'information, une émission particulière ce matin consacrée à l'audiovisuel public et au conflit à Radio France. Radio France en crise, Radio France en grève, la maison de la radio vit le plus long conflit de son histoire. On en voit peut-être la fin. Un médiateur vient d'être nommé, Dominique-Jean Chertier, pour d'abord permettre une sortie de la grève et ensuite accompagner, négocier la réforme, la transformation de l'entreprise qui fait face à un déficit de 21 millions d'euros cette année. Dans ce contexte, un rapport sévère de la Cour des comptes a pointé l'état de crise financière critique de l'entreprise, une gestion peu rigoureuse selon le rapport et un chantier de réhabilitation mal maîtrisé, un devis de 262 millions qui explose pour une estimation finale des travaux de 575 millions. Il va falloir trouver de l'argent, il va falloir faire mieux avec moins de moyens, une phrase que l'on a beaucoup entendue. Radio France va devoir se transformer en continuant sa mission de service public exigeant et de qualité, mais en tenant compte également des impératifs économiques, une équation pas si simple. Comment réformer, comment transformer l'audiovisuel public? On en parle ce matin dans Le secret des sources avec nos invités. Dominique Pradallier, secrétaire général du SNJ, le syndicat national des journalistes et rédactrice en chef à France 2. Bonjour.
Bonjour.
Alain Le Gouguec, adhérent du syndicat Sud, rédacteur en chef à France Inter, également président de Reporters sans frontières. Bonjour.
Bonjour.
Daniel Pseny, spécialiste média au journal Le Monde. Bonjour.
Bonjour.
Avec nous également Christian Delporte, historien des médias et directeur de la revue Le Temps des médias. Bonjour.
Bonjour.
Nos deux regards extérieurs aujourd'hui dans Le secret des sources, Mariette Darigrand, sémiologue, et Thibaut Henton pour les images et le web. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy avec aux manettes cette semaine Alexandre Dang, le clin d'œil de Yacine Bouzard, rendez-vous incontournable en fin d'émission. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans Le secret des sources.
À la radio, fallait-il une maison?
La radio, j'adore la radio.
Mathieu, entends-tu la colère qui gronde dans nos chaînes?
On est là, on est là, on est là.
Moi, ça fait 20 ans que je suis à la radio. C'est la première fois. Pour moi, j'ai vécu un moment historique.
Finalement, la finalité n'est plus le service public, la qualité de ce qu'on produit, mais économiser, parce que la redevance est moindre. Donc, on va faire des économies sur tout.
Il y a des raisons d'inquiétude, probablement. Il y a ma personnalité. Moi aussi, j'ai probablement à remettre en question. Le fond, ce n'est pas moi. Le fond, c'est ce modèle économique de Radio France. C'est le fait qu'il y a des choix aujourd'hui qui sont douloureux à porter.
Qui est pour voter la grève jusqu'à demain inclus?
Je veux juste vous dire que vous n'êtes pas seul, que beaucoup de gens à l'extérieur de Radio France sont très à l'écoute de votre grève.
Voilà, extrait de manifestations, d'assemblée générale et une intervention de Mathieu Gallet, le président de Radio France, qui ont eu lieu ces derniers jours durant le mouvement de grève. Alors on entend la détermination des salariés en grève dans ce montage. Christian Delporte, est-ce que toucher à l'audiovisuel public est forcément un dossier explosif?
Le service public de l'audiovisuel a toujours été un dossier explosif. Il l'était sur le plan politique. Il l'a été sur le plan politique pendant très longtemps. La question était celle de l'indépendance. Et aujourd'hui, elle est celle de la santé financière du service public. Mais il ne faut pas isoler, à mon avis, la question de l'audiovisuel de l'ensemble des questions du service public en France. Et quand vous rappeliez cette phrase « faire mieux avec moins », ça ne concerne pas seulement l'audiovisuel public.
Ça ne concerne pas seulement l'audiovisuel public, mais on l'a beaucoup entendu à Radio France, et je crois qu'on l'a beaucoup entendu également à France Télévisions, Dominique Pradallier, cette phrase.
Ah, on l'entend depuis des dizaines d'années, d'année en année, de président à président et de gouvernement en gouvernement. Il faut toujours faire mieux avec moins. Alors le coup le plus grave nous a été quand même porté en 2008 avec la loi de 2009 et surtout la disparition de la recette publicitaire. Moi qui me suis battu contre l'introduction de la publicité, puis contre sa disparition brutale, je peux vous dire que ça a créé un trou financier énorme qui, malgré toutes les promesses du président de la République de l'époque, compensé à l'euro près, est évidemment extrêmement loin du compte. Extrêmement loin du compte. Donc nos maisons sont mises en déroute financière artificiellement.
Daniel Pseny, réformer, transformer l'audiovisuel public, c'est explosif à chaque fois.
Oui, ça l'est, mais c'est ce conflit à Radio France et les difficultés que rencontre France Télévisions montrent qu'il y a une absence de politique audiovisuelle en France gouvernementale, et donc c'est une cause politique. C'est-à-dire que là, depuis 2 ans et demi, il n'y a pas eu de projet politique exposé par François Hollande pendant sa campagne électorale et appliqué par la suite. C'est-à-dire que le projet culturel de la France, enfin de la politique culturelle dont l'audiovisuel fait partie, n'a pas d'avenir. Enfin, on n'a pas une perspective qui a été tracée.
Mais le projet culturel s'appuie sur un financement, et je crois qu'à France Télévisions, la suppression de la pub, c'est, après 20 heures, c'est 300 millions qui vous manquent.
Oui, oui.
C'est chaque année.
Chaque année.
Mais simplement, c'est qu'il y a un problème politique et il y a un problème financier, bien évidemment. Quand on supprime les subventions à France Télévisions du jour au lendemain, les dotations à Radio France du jour au lendemain, pour des raisons d'économie des services publics, tous les services publics sont touchés, ça a des conséquences sur l'emploi, ça a des conséquences sur la création, notamment à France Télévisions, les fictions, les documentaires, et ça a des conséquences sur l'activité des salariés ici à Radio France. On le voit très bien dans les revendications. Et là se pose le problème politique. Alors après, dans un deuxième temps, il y a, je pense, un problème d'hypocrisie, mais ça, on va y revenir peut-être dans le débat, sur le cadre des nominations, sur la structure même des dirigeants qui sont nommés et comment ça se passe et qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité pour travailler pendant les 5 ans de leur nomination.
Alain Le Gouguec, adhérent au Sénégal Sud, ici à Radio France. Un médiateur vient donc d'être nommé. Quel sentiment avez-vous, Alain, après cette longue grève? Un sentiment de gâchis, de perte de temps?
De perte de temps, oui. De gâchis, non. Parce qu'il en reste toujours quelque chose, une grève aussi longue. D'abord, les gens se parlent, toutes catégories professionnelles confondues, donc c'est important. Vous demandiez à l'instant si c'était un dossier explosif, la réforme de l'audiovisuel public en France. Avant de dire que c'est explosif, moi j'ai envie de dire que c'est possible. J'aimerais dire que c'est possible de réformer l'audiovisuel public, puisque l'audiovisuel public ne cesse pas de se réformer dans les métiers au fil des ans. Que fait-on? On est passé de l'analogique au numérique, par exemple. Moi, j'ai connu l'époque, et vous aussi, où on se promenait avec des magnétos à bandes et on taillait là-dedans allègrement avec des ciseaux de coiffeur. C'est fini ce temps-là, on a connu ça, ça date pas du 19e siècle. Donc on a su se réformer, on a su le faire vite et bien en plus, sans que ça pèse sur l'auditeur. Donc c'est possible. Le médiateur, moi je l'ai demandé depuis le début parce que j'avais l'expérience d'une grève de journalistes qui a été très longue, qui date de 94. Grève au cours de laquelle nous avions demandé un médiateur pensant que tout était bloqué.
Une grève de 18 jours.
18 jours exactement, ça a été c'était la plus longue grève de journalistes. Les journalistes de Radio France, à l'époque, c'était une période faste, demandaient l'alignement de leur salaire ceux des journalistes de la télévision.
Absolument.
Exactement. Et elle est partie d'une manière un petit peu curieuse, d'ailleurs, cette grève. Elle a duré 18 jours. Nous avons eu un médiateur que nous réclamions, qui s'appelait M. Servat.
Qui était un homme remarquable.
Qui était un homme remarquable dans la mesure où, déjà, il a laissé son nom à un plan ici qui nous a accompagnés très longtemps. Il a su comprendre les enjeux, les problèmes, et puis il a réglé tout ça. Et nous avons repris le travail, le cœur léger, puisque nous avions gagné. Dire qu'avec un médiateur, après 3 semaines de grève, médiateur demandé déjà depuis longtemps, nous avons gagné quelque chose, non, c'est un petit pas. C'est là où tout commence.
Alors Guy Servat, 1994, Dominique-Jean Chertier, médiateur aujourd'hui en 2015, un expert du dialogue social, nous dit-on.
Il est l'homme d'une double et même d'une triple expérience industrielle, sociale et celle d'un conseiller ministériel à plusieurs reprises. Industriel d'abord, il débute sa carrière chez Renault en international, puis il rejoint Saint-Cylor dans les années 80. À l'heure de restructuration douloureuse, il est chargé des relations sociales, il négocie, comme il négociera quelques années plus tard, à Air Inter en tant que directeur des relations humaines. Dominique Jeanchartier, qui devra gérer un conflit très dur d'ailleurs chez les pilotes à l'approche des années 90. Le social, il va le gérer côté demandeur d'emploi, cette fois quand il prend la direction générale de l'UNEDIC, jusqu'à présider Pôle emploi, qui fédère la NPE avec l'assurance chômage. Il constate que Pôle emploi manque de moyens, en demande davantage pour, dit-il, accompagner plus loin les chômeurs. Conseiller social de Jean-Pierre Raffarin, c'est aussi lui qui s'est vu confier par Dominique de Villepin une mission sur la modernisation du dialogue social. Le social qu'il veut, dit-il, moderniser avec une touche particulière, un sens que les partenaires sociaux lui reconnaissent de l'écoute et de la capacité à négocier, au terme de quoi il a pu démêler des situations de crise et accoucher de réformes qui n'étaient pas évidentes, telles que celle de l'indemnisation chômage.
Voilà, vous venez d'entendre Jean-Marc Chardon, chef du service économique et social dans le journal de 8h hier matin sur France Culture. Et je vous propose d'entendre brièvement la première déclaration de Dominique Jeanchartier, donc le médiateur, à son arrivée hier matin à Radio France.
Comment est-ce que vous envisagez la situation? Là, le dialogue social est complètement bloqué? Le
dialogue social n'est jamais définitivement rompu. C'est une belle maison, il faut pouvoir s'en sortir rapidement.
Voilà, c'est une belle maison, il faut pouvoir s'en sortir rapidement. Donc la nomination du médiateur a été qualifiée de pas important et de geste vers la réconciliation par les syndicats de Radio France. Son premier travail est donc de faire en sorte que la grève s'arrête. Est-ce que les conditions de reprise du travail, de fin de grève, sont déjà un peu négociées avant son arrivée, selon vous, Dominique Pradallier?
Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur un point qui a été dit ici par mon confrère. C'est toujours politique, le service public de l'audiovisuel. Ça l'a toujours été, ça l'est toujours. Maintenant, on habille ça financièrement pour se dissimuler mieux. Mais les décisions politiques ont toujours été les mêmes, c'est-à-dire une absence de politique globale, comme vous l'avez si bien dit, pour des institutions qui représentent un monde de culture énorme au service de tous les Français. Mais le politique est toujours derrière. Et c'est le politique qui tire les ficelles. Maintenant, il se cache derrière le financement. Et ça, c'est très choquant. Quant à savoir si les modalités de reprise des activités et du travail à Radio France sont réunies, je serais beaucoup plus
prudente.
Je serais beaucoup plus prudente et je considérerais que le dialogue social dont le médiateur, semble-t-il, est un spécialiste, est dans son portrait associé à industriel et venant de cabinet ministériel. C'est toute la plaie dont nous souffrons depuis des dizaines d'années dans les services publics, c'est-à-dire l'interventionnisme politique et industriel. En France, on est capable de donner plus de 100 milliards d'euros aux entreprises privées et on ne trouve pas 50 millions pour Radio France, on ne trouve pas 80 millions pour France Télévisions.
Christian Delporte, le service public ne pourra jamais, ne sera jamais indépendant du pouvoir politique?
Il l'est quand même de plus en plus. C'est peut-être un peu le problème, d'ailleurs. Parce qu'avant, ce service public comptait d'autant plus qu'il était complètement relié au pouvoir politique. Et la question se posait en termes d'indépendance. Et puis, petit à petit, il a pris un peu sa distance, une certaine autonomie. Et on se demande peut-être, en haut lieu, s'il est complètement utile.
Alors, les pistes pour réformer Radio France, Thibault Henton, notre regard sur le web. Thibault, vous avez trouvé plusieurs propositions et initiatives pour moderniser Radio France.
Propositions, initiatives, rassemblements nombreux depuis 25 jours. Alors, point d'aperçu rapide, tapez dièse grève RF ou bien dièse vive la radio dans un moteur de recherche. C'est marrant quand même le pouvoir d'une grève sur les consciences. Quoi qu'on en pense, quel que soit le niveau de désarroi des uns et des autres après tant d'agitation, ça force l'interrogation, ça pousse à l'organisation. Bref, tout le contraire de ce qu'écrivait Le Monde dans son éditorial du 2 avril dernier, je cite: Radio France est en grève pour que rien ne change à Radio France. Fascinant désir d'immobilisme, pour ne pas dire de conservatisme. Fin de citation. Ceux qui écrivent des choses pareilles ne fréquentent manifestement pas la maison de la radio, mais, et c'est bien plus inquiétant, ils ne fréquentent pas non plus le web. Pire encore, ils ne lisent pas leur propre journal. Sans quoi, ils auraient vu que ce mouvement est bel et bien en mouvement. Ainsi, de la tribune de Philippe Meyer, publiée dans Le Monde, justement, au début de la grève, est intitulé « Il faut stopper la dérive de Radio France ». Une tribune qui dessine quelques pistes, entre autres, associer les musiciens de Radio France à une redéfinition de leur mission, en prenant exemple sur l'action de l'Orchestre National de Lille, associer également les travailleurs du son, cantonner à relayer des bruits de bouche alors qu'ils sauraient saisir et retransmettre les rumeurs du monde et en permettre l'analyse. Autre initiative, celle des producteurs d'émissions des différentes chaînes de Radio France réunis pour la première fois en association. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas ?
SPARF.
Voilà, c'est totalement
inédit. Né pendant la grève.
Totalement inédit dans l'histoire de Radio France, malgré plusieurs tentatives dans le passé. Inter, Bleu, Musique, Culture,
FIP. Bon, il faut lire à quoi correspond SPARF, Société des producteurs associés.
Ouais, SPARF, Société des producteurs associés de Radio France, j'allais le dire un peu plus tard. Donc Inter, Bleu, Musique, Culture, FIP et Info pour la première fois réunis. Notons au passage que Move, récemment restructuré, reste le grand absent pour l'instant de la SPARF, Société des producteurs associés de Radio France.
SPARF, on l'a dit deux fois.
Vous pouvez retrouver facilement l'association sur les réseaux, laquelle a permis la tenue de deux émissions à ce jour, malgré les résistances de la direction générale, Frédéric Schlesinger, pour ne pas le nommer, refusant leur diffusion sur les ondes. Mais elles se sont tenues et elles sont écoutables en ligne.
Je tourne un bouton et je suis aussitôt avec la radio.
Vive la radio, vive la radio,
la radio.
Il faudrait également citer les collectifs préexistants, comme celui formé dans le giron du journal Fakir de l'Air à Inter, ou celui des journalistes précaires de Radio France, soutenus à l'occasion du mouvement par les journalistes titulaires, qui ont signifié au ministère de la Culture combien leur situation est intolérable et que des solutions existent. Enfin, et surtout, il faut citer ces collectifs d'auditeurs solidaires, dont l'un a connu un succès rapide sur le plus célèbre des réseaux sociaux. Cet après-midi, à 14h, certains d'entre eux organisent d'ailleurs une fausse émission en direct au pied de la Tour Eiffel. Voilà, entre autres, ce qui s'est passé sur la toile à ce jour. Venons-en maintenant, Frédéric, à ce qui ne s'est pas passé à ce jour. Il n'y a pas eu de prise d'antenne, pas d'occupation des ondes. Vous n'y pensez pas, ce serait une prise d'otage. Patrick Cohen ne s'est pas indigné non plus à l'antenne sur la tranche la plus écoutée de Radio France, le 7-9 d'Inter, comme il avait pu le faire pour défendre le statut de journaliste de sa camarade Pascal Clark en déchirant sa carte de presse. Personne, alors, n'avait parlé de prise d'otage. Les différentes chaînes du groupe ne se sont pas encore réorganisées sur le modèle de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, idéal de gestion démocratique d'un groupe d'individus aux partitions différentes. Enfin, Radio France ne s'est toujours pas transformée en SCOP. Ces initiatives qui ont émergé, comme celles qui n'ont pas émergé, n'ont pas grand-chose à voir avec le plan du président directeur général de Radio France, mais elles ont un avantage sur lui, elles sont tout à fait stratégiques.
Thibault Henneton, que l'on retrouve un peu plus tard dans l'émission.
Pour pouvoir rétablir l'équilibre économique de Radio France tout en lui permettant de se développer, notamment à travers le numérique, pour pouvoir continuer à assumer ses missions de service public dans l'exigence qu'on attend du service public, il faut se transformer. C'est ça aujourd'hui qui est le plus difficile, ce travail de modernisation à Radio France, parce qu'il va passer par des choix difficiles, notamment par un plan de départ volontaire, avec des choix d'arrêt d'un certain nombre de diffusions, je pense aux ondes moyennes et aux grandes ondes, avec voilà un besoin de se développer aussi, de développer nos recettes, et je pense notamment à l'arrivée de nouveaux types d'annonceurs publicitaires, ou à la diversification de nos recettes à travers la maison de la radio.
Voilà Mathieu Gallet, président directeur général de Radio France, mercredi dernier, lors d'une audition devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Une réaction, Daniel Pseny, là on parle, le président de Radio France parle du plan de départ volontaire.
Oui, il parle d'un plan de départ volontaire, enfin, ce qui cristallise quand même pas mal de... qui a été une des causes de mise en grève des salariés de Radio France, enfin l'annonce de ce plan. Mais ce qu'il y a d'intéressant en plus, c'est que là, il y a une question sémantique là, qui se pose par rapport à Mathieu Gallet, mais aussi à tout Radio France. On parle de tutelle et d'actionnaire. Il faut savoir un peu comment ça s'articule, ça. Parce que la tutelle, ça veut dire que le pouvoir politique, économique, en gros, a cette tutelle sur Radio France. Et donc, les personnes sous tutelle, ben, c'est les personnes qui ne sont pas très, très, très à l'aise et qu'on oblige, enfin, on lui donne des ordres. Alors que l'actionnaire, bon, a un droit de savoir comment ça se passe dans l'entreprise, demande des comptes, etc. Et donc, là, Mathieu Galeb parle de se transformer. Il va falloir quand même transformer ça à l'intérieur même de Radio France. C'est-à-dire qu'effectivement, éclaircir ses relations avec l'État, actionnaire ou de tutelle. Et donc là, ça peut un peu changer les choses et avoir cette autonomie et cette indépendance. Peut-être pas financière, parce que de toute façon, la subvention dépend de l'État. Mais je pense que c'est très important qu'il y ait, il y ait ce changement.
Alain Le Gougec.
Oui, quand on parle de tutelle, on devrait le dire au pluriel, parce qu'en fait, il y a la tutelle de la rue de Valois, du ministère de la Culture, il y a aussi Bercy, et je ne parle même pas de l'Élysée et de Matignon, évidemment. Ça fait quand même beaucoup de monde sur le berceau de Radio France, plus la Cour des Comptes, etc. Et tout ce petit monde s'abrite derrière le conseil d'administration de Radio France, puisque Radio France, il faut quand même le préciser, on n'est pas dans la fonction publique, c'est une société commerciale de droit privé, juridiquement, qui a un actionnaire, l'État, un conseil d'administration, avec des administrateurs qui sont nommés par les principales institutions françaises. Moi, j'ai siégé en tant que salarié au conseil d'administration de Radio France à deux reprises au cours de mon existence. J'ai beaucoup de respect pour les administrateurs qui siègent, mais franchement, j'ai eu l'impression qu'ils venaient surtout là pour goûter le café, manger des petits biscuits, etc., et voter unanimement lorsque le président le leur demandait, le président de Radio France leur demandait, président du conseil d'administration. Donc si c'est à ça que ça doit servir, je pense que tous ces gens manquent un peu de modestie. Ils sont face à une maison incroyable, la plus grande maison de la culture de France, peut-être même d'Europe. On produit, parce qu'on nous parle de rentabilité, donc c'est qu'il doit y avoir une production quelque part. Que produisons-nous ? De la culture. Que produit la culture ? De la conscience. C'est quand même pas rien, quoi. Et il y a ici quelque chose comme 34 à 40 métiers, je sais plus combien exactement, avec des gens d'une compétence, mais absolument incroyable. Moi, j'en croise tous les jours, et je suis dans cette maison depuis 33 ans. J'ai 40 ans de journalisme, je croise ici sans arrêt des gens qui sont d'une compétence fabuleuse dans tous les métiers. Si seulement on prenait soin de les écouter, et de cesser de penser qu'on a la bonne recette pour faire en sorte que cette maison marche droit.
Alors, avant de poursuivre sur l'excellence, la mission de Radio France, de l'audiovisuel public, je voudrais quand même revenir sur ce qu'a abordé Thibault Henneton, donc cet éditorial du Monde, qui parle du mouvement de grève, parce qu'il y a aussi des auditeurs qui n'entendent plus leur chaîne de radio, qui sont devenues très musicales. Donc cet édito du Monde dit que le mouvement de grève paraît incompréhensible, qu'on ne discerne en effet aucune revendication précise, susceptible de servir de base à une négociation sérieuse et à des réformes nécessaires. Radio France est en grève pour que rien ne change à Radio France, fascinant désir d'immobilisme, pour ne pas dire de conservatisme. Tout se passe en réalité, poursuit l'édito, comme si chacun avait oublié le sens même du service public, celui d'une entreprise, au service de ses auditeurs, qui sont aussi, comme contribuables, ses principaux financeurs coupables oubliés. Alors, je crois qu'à Radio France, tout le monde a lu cette éditoriale. Visiblement, le journal Le Monde a du mal à comprendre cette grève pour que rien ne change. Est-ce que c'est un peu le sentiment que vous avez, Christian Delporte ?
D'abord, le mot conservatisme, c'est toujours celui que l'on renvoie quand on n'a pas envie de comprendre la nature même du conflit. C'est pas propre à Radio France. C'est un des mots clés de la langue de bois politique et journalistique. Donc, on l'applique d'ailleurs pas seulement à l'audiovisuel public, pour un domaine que je connais un peu mieux sans doute encore, l'école, l'université, on dit qu'elle ne se réforme pas, et qu'il y a toujours cette barrière des conservatismes. Enfin, quand on a connu le métier il y a 20 ans et quand on le connaît aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les réformes de l'État qui ont fait évoluer le métier d'enseignant. Et je pense que pour l'audiovisuel public, il en va de même.
C'est ce que disait Alain Le Gougec quand on est passé au numérique, hein, c'était pas, il n'y a pas si longtemps que cela. Cela dit, Alain Le Gougec, beaucoup de différences dans beaucoup de rédactions, dans beaucoup de corps de métiers. Il y a eu effectivement une quarantaine de métiers différents à Radio France. Durant la grève de Radio France, les journalistes n'ont pas tellement adhéré au mouvement. Pourquoi, selon vous ?
Ben, par les vôtres, ceux que vous dirigez ici à France Culture. Pourquoi ? Je me garderai bien de dire que c'est une question de conservatisme, mais j'avoue que je n'ai pas bien compris. J'ai entendu des choses, j'ai entendu notamment que cette grève partait trop tôt. Je crains seulement qu'un peu plus tard, on aurait dit qu'elle partait trop tard. C'est une façon de s'abriter derrière son doigt quand on veut surtout ne pas bouger, qu'on attend que les choses se passent différemment, etc. Bon, les journalistes s'apprêtaient à signer un accord, nouvel accord collectif des journalistes. Ça faisait un bout de temps qu'ils voulaient le signer. signé cet accord, ils ont failli le signer au beau milieu de la grève, et puis je ne sais pas si c'est la direction des ressources humaines de l'entreprise qui a estimé que ce serait peut-être très vilain, très mal vu par les autres membres du personnel, donc qui a ajourné la signature de cet accord. Je pense qu'il y avait des intérêts corporatistes défendus par les journalistes. Alors, ça, c'est la version soft, la version douce. J'ai entendu un technicien, au cours d'une assemblée générale de grève, dire, lui, aux journalistes, parce que j'étais un peu chahuté, étant donné que j'exprimais un point de vue qui était propice aux grévistes, j'avais entendu des choses que j'avais pas aimées du tout. J'ai suscité une assemblée générale de journalistes pour qu'on puisse discuter, parler de ce mouvement, parce que je m'étonnais qu'au bout de 8 jours, les journalistes ne fassent rien, n'en parlent même pas. Et ce que j'ai dit n'a pas été tellement apprécié. Un technicien a pris la parole, a dit, mais est-ce qu'on se croise tous les jours, on travaille ensemble, nos relations sont courtoises, je résume hein, ce qu'il a dit, mais vous ne vous rendez même pas compte que vous vous comportez, alors il a employé un mot comme une caste. Comme une caste. Comme s'il y avait ici les brahmanes, les journalistes, et comme si tous les jours étaient des intouchables. J'irai pas jusque-là, mais je pense quand même que certains de mes confrères et de mes consœurs devraient faire un peu leur examen de conscience. Alors là, je joue les honneurs de leçon, je vais encore me faire allumer. Il y a des gens qui ne m'adressent plus la parole depuis 15 jours, 3 semaines dans cette maison. Donc ça va pas s'arranger.
Voilà, les grèves, c'est toujours, ça laisse toujours quelques traces, bien évidemment, dans les différents corps de métier. Enfin, c'est pas un épisode tranquille, un long fleuve tranquille, qui ne donne pas de résultats et de séquelles dans les rédactions. Dominique Pradallier, il y a une grève en ce moment à France Télévisions dont on parle peu, une grève perlée qui a débuté le 29 janvier dernier, qui se poursuit aujourd'hui encore, et on ne s'en rend pas compte.
On s'en rend un petit peu compte, mais pas assez. C'est une grève, effectivement, de nos collègues techniciens et certains qui sont producteurs, parce qu'on veut leur imposer des changements horaires sans aucune raison, notamment pour les contraindre à travailler comme les caissières de supermarché. C'est-à-dire des amplitudes de journée énormes, alors que ça fait des années que, et là je rejoins complètement mon confrère le Gouguec, non seulement nous sommes passés du film à la dématérialisation complète de toute image et son, et ça sans aucune aide extérieure ni rien, parce qu'on est des professionnels, et c'est normal, point. On n'a pas à en dire plus ni en être plus fier que ça, mais à le rappeler quand même. Sur nos amis techniciens, on les aide du mieux qu'on peut, mais effectivement, actuellement, à part aller en justice, ce qu'on vient de faire à 2 reprises, pour faire reconnaître leur droit de grève et le droit de grève en général, et nous continuons notre action, et c'est un peu plus compliqué pour nous, effectivement, de rentrer dans ce mouvement. Mais je voulais dire une chose tout à l'heure, on a parlé des conseils d'administration, mais nous avons le petit jumeau, le conseil d'administration en France Télévisions. Il n'y a aucun risque de putsch. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a aucun risque de putsch. C'est dramatique. Ils siègent des parlementaires qui sont extrêmement au fait, puisque nous les informons de ce qui se passe. Ils n'en disent pas un mot quand ils viennent. Quand ils viennent siéger. Enfin, le plan de départ volontaire, alors là, c'est vraiment la panacée de tous les directeurs qui veulent continuer à se regarder dans une glace et à croire ce qu'ils voient. Chez nous, c'est plutôt catastrophique, le plan de départ volontaire. Il n'est même pas rempli aux 2/3, rempli entre guillemets, bien sûr, parce que la direction a refusé de nous écouter. Elle a voulu utiliser ce plan comme une arme de restructuration en même temps. Ce qui fait que vous avez des emplois supprimés là où il serait nécessaire, et vous avez des gens qui veulent partir, qui ne peuvent pas, car leur emploi, qui est moins nécessaire, n'est pas supprimé. Donc c'est un gâchis phénoménal. Et ça accroît gravement les risques psychosociaux qui sont à un degré très aigu chez nous, compte tenu que nous sommes en restructuration et brassage permanent depuis maintenant 2008. Donc ça fait 7 ans. Ben, c'est très très long, 7 ans. Et il y a eu des gestes irréparables commis. Il y a 44 rapports en 3 ans. 44 rapports. C'est pour vous dire à quel point ce service public est abîmé sous les yeux bienveillants de toutes nos tutelles, qui sont alertées par nous en permanence, etc. Nous, on demande une seule chose, pouvoir faire notre travail et notre mission d'informer pour les citoyens. Je parle pour les journalistes, mais les techniciens administratifs sont tout aussi sensibles et même plus parfois que nous à ça. Et je dirais une dernière chose, c'est que ce qui nous guette, qui est un danger extrêmement grave pour tous les citoyens de notre pays, c'est la fusion des rédactions.
Alors on va en parler dans un petit moment de la fusion des rédactions, écartée aussi rapidement que l'idée a été avancée la semaine dernière par le PDG Mathieu Gallet. On y revient dans un tout petit instant.
That's all I know about her. Capricorn, she's a Capricorn. I don't wanna be without her. She was working in a bar. I used to watch her from afar. See her float across the room. She told me she was born when the snow begins to fall and the river turns to ice. Capricorn, she's a Capricorn. Well, I call her Capricorn, she's a Capricorn. Gotta tell her that I love her.
J.J. Johnson sur France Culture, crooner, auteur, compositeur suédois, Capricorn, extrait de son mini-album, un album 4 titres, Moonshine, qui sort après-demain, lundi. Mariette Darigrand, les mots nous intéressent, et notamment dans ce conflit, il y a deux mots essentiels, grève, réformer. Alors à Radio France, on l'a entendu dans l'extrait que nous avons diffusé du président Mathieu Gallet, à Radio France, on parle de transformer, nous devons nous transformer. Et il y a une raison.
C'est le même mot. Transformer et réformer, c'est le même mot. Le même radical, c'est la forme, mais avec un préfixe différent. Très important, les préfixes. Alors aujourd'hui, le préfixe à la mode, c'est trans, en effet. Hein. Transition démocratique, transition énergétique, transgenre. Le trans est à la mode. Donc je dirais que c'est un petit indice de modernité, mais bon, c'est à peu près la même question. Alors le problème avec le mot réforme, c'est qu'il est totalement plombé dans le champ politique. Hein. C'est dès qu'on parle de réforme, on suscite des connotations extrêmement négatives. Je ne comprends pas à ce jour comment les politiques, parce qu'il s'agit de ça, utilisent encore ce terme, qui, d'ailleurs en l'abîmant profondément, parce que c'est un mot magnifique de notre histoire. La réforme, c'est un élément historique essentiel de l'histoire de France, évidemment, et même de l'Europe. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'ailleurs intéressant par rapport peut-être à votre sujet. La réforme s'exerce contre certains abus, certains excès. Il faut revenir à la forme initiale. Et la forme, vous savez qu'en latin, c'était la beauté. Donc on revient à la beauté antique ou à la beauté hébraïque de la Bible, originelle. On évacue les clergés surnuméraires et les excès d'argent, des indulgences, comme vous le savez. Donc il y a une beauté, du geste politique dans ce mot, mais qui évidemment, au fil du temps, s'est complètement perdu. Donc qu'est-ce que c'est qu'un réformé ? Aujourd'hui, même si le service militaire n'existe plus, c'est quand même quelqu'un qui a été mis de côté, voire au rebut parce qu'il lui manquait quelque chose. Donc le mot est absolument négatif. Personne n'est réformable, je dirais aujourd'hui. En France, personne n'a envie d'être réformé.
On est transformable.
Alors, essayons peut-être la transformation qui est plus moderne et tournée vers une forme de dynamisme, hein, puisque le trans, c'est ce qui nous fait aller vers. Donc, nous, on va bien voir.
Alors, l'autre mot important, c'est grève, forcément.
Ah ben ça, grève, toute grève, si vous voulez, conduit à la reprise du travail nécessairement par l'ordre du langage. Parce que la grève, c'est la place de grève, et la place de grève, on y cherche de l'embauche. Au 19e siècle, hein, parce qu'avant, on y coupait plutôt la tête, et puis on brûlait des gens, la place de grève. Mais au fur et à mesure du temps, ce sont les chômeurs, en quelque sorte, qui venaient chercher de l'emploi sur la place de grève. Alors c'est intéressant, parce que le mot est très beau, très poétique. C'est la lisière du cours d'eau, donc il faut aller du côté de la Seine. La place de grève, c'est la place de l'Hôtel de Ville, mais du côté de la Seine, parce que s'y trouvent des graviers, et c'est ce mot-là qui donne le mot de la grève. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? La célèbre formule, il faut savoir terminer une grève, en fait, pourrait être dite, il faut savoir quitter la grève.
Mariette Darigrand.
Nous pensons qu'il peut y avoir des gains d'efficacité, d'efficience en matière de mutualisation.
Vous proposez à la Cour des comptes de fusionner non seulement les deux orchestres symphoniques, mais aussi les rédactions de France Inter, France Info et France Culture. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de journalistes aujourd'hui à Radio France ?
Compte tenu de ce que nous avons vu, il peut y avoir des gains en termes d'efficacité, d'efficience. Ça doit se traduire par une organisation du travail un peu différente et puis par des modes de production également un peu différentes. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être davantage mutualisées, y compris au niveau des journalistes. Nous sommes tout à fait sensibles à quelques premiers efforts de mutualisation qui ont été faits. Bon, nous avons pu constater que dans le domaine du sport, par exemple, il y a un certain nombre de mutualisations
fusionner les services des sports.
Qui ont été réalisées. Mais bon, peut-être qu'on peut aller au-delà. Nous disons qu'il y a des mutualisations qui ne sont pas encore faites et qui pourraient permettre justement une plus grande efficacité en termes de moyens.
Voilà Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, qui s'exprimait la semaine dernière après la publication d'un rapport très sévère de la Cour des comptes envers Radio France. Alors je note quand même, parce qu'en préambule, ça nous fait plaisir, que la qualité des programmes de Radio France fait l'objet d'une appréciation positive. Je crois que c'est la seule dans le rapport. Et le rapport souligne que Radio France a maintenu sa part d'audience autour de 25%. Alors cette fusion des rédactions d'Inter, d'Info et de Culture a été écartée aussi vite qu'elle a été avancée. Cela dit, la fusion des rédactions à France Télévisions dans le projet Info 2015, Dominique Pradalier, est-ce que c'est en marche chez vous ?
C'est en marche forcée de la part de la direction, c'est en marche contre de la part des personnels en face, par tous les moyens possibles. C'est une catastrophe à nos yeux si cela se produisait. Le service des sports est en direction fusionnée depuis des années et des années, donc c'est pas du tout la même question qui se pose pour nous maintenant. Toute fusion des rédactions, que ce soit à Radio France ou si ça devait arriver à France Télévisions, est une disparition complète du pluralisme. Et de la spécialisation des journalistes. On les met tous dans le même bocal et puis on en tire un pour dire tiens, un jour tu vas aller à la Cour des comptes, le lendemain il va aller sur un feu de broussailles, le troisième jour il va aller dans un tribunal, le quatrième jour il va traiter le rapport de la Cour des comptes, le cinquième jour, etc. etc. Ce qui veut dire qu'une rédaction qui est un être vivant dont chacun des membres doit concourir de la meilleure façon possible, via son service, via une édition, etc., au contenu du journal le plus intelligent possible. Eh bien, tout est inversé, centralisation au niveau de la direction qui envoie des missions, qui envoie des journalistes comme on envoyait des missis Dominici autrefois. Voilà le rêve de nos directeurs.
Et vous ne parlez même pas des externalisations déjà en place, par exemple, tous ces programmes qui sont produits à l'extérieur de France Télévisions.
Dans le même temps où le plan de départ volontaire prévoit la suppression de 91 emplois de journalistes. C'est quand même pas rien, 91 emplois. Eh bien, on vient de créer sur la 5, en faisant appel à une société privée, un journal et un magazine le jeudi soir. Dans le même temps, les magazines sont toujours externalisés et ça fait 4-5 ans que nous nous battons pour les réinternaliser. Nous avons les compétences, évidemment. Nous les connaissons, on se connaît bien entre nous. Donc, la fusion des rédactions pour les citoyens, ça signifie le robinet d'eau tiède unique. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est bien pour ça que je reviens à mon dada. C'est complètement politique.
Alors, Christian Delporte, il ne peut pas y avoir de fusion des rédactions ou de mutualisation des services positive ou en tout cas qui fasse progresser, qui soit un atout dans les rédactions? Est-ce que l'audiovisuel public français est un cas à part? Parce qu'au Canada, on supprime des postes, on mutualise des services. Hein, la BBC a fusionné même des chaînes tout entières, passé des chaînes sur le web. Ça se fait à l'étranger, en Europe?
Bon, d'abord, sur le rapport de la Cour des comptes, le terme de mutualisation, vous le retrouvez pratiquement dans tous les rapports de la Cour des comptes. Je veux dire, c'est effectivement, sachant que c'est la masse salariale qui pèse le plus dans le budget, on essaye de la réduire par tous les moyens. Mais bon, la fusion des rédactions, ça s'est fait ailleurs, hein, déjà, ça s'est fait en Allemagne. Mais la question fondamentale, c'est de savoir, est-ce que l'État considère qu'on a ou non besoin d'un service public? Vous disiez que c'est une question politique, c'est complètement politique, c'est un problème de choix. Gouverner, c'est choisir. Et alors, si on choisit, on n'est pas obligé de choisir, mais si on choisit le service public, alors il faut lui en donner les moyens. Et actuellement, c'est au niveau de l'État que la question se pose. Elle ne se pose pas au niveau de Radio France. Elle se pose bien au-delà, et notamment sur, on pourra en parler, la question de l'assiette de la redevance, sur la pérennisation des moyens financiers qu'on donne à l'ensemble du service public de l'audiovisuel.
La redevance en Angleterre, par exemple, elle est à 197 euros par an.
Oui.
18 euros par mois en Allemagne.
Oui.
11 euros à peu près, hein, en France.
C'est-à-dire moins que la Suisse, moins que la Norvège, le Danemark, l'Autriche, la Finlande. On est en queue de peloton juste avant l'Italie.
Daniel Pseny, du Monde.
Oui, pour répondre aussi à cette question, c'est-à-dire que dans tous les médias, l'information, ça coûte cher et ça rapporte pas ou peu. Et donc, il y a toujours tendance à réduire ce poste, de mutualiser. Et on l'a entendu avec Didier Migaud, qui parle de rentabilité, de gains, d'efficacité des modes de production. Simplement, c'est que l'information est volatile aussi. Bon, on ne peut pas prévoir à l'avance qu'il y a un conflit, où on envoie quelqu'un, un envoyé spécial, qui, bon, tout ça coûte de l'argent. Et de fait, on ne sait pas ce qu'il peut rapporter aussi. Et maintenant, avec la numérisation, on demande de tout faire. Enfin, on en parlait avant. Et c'est vrai que c'est un problème de statut et simplement aussi de possibilité. Est-ce qu'un journaliste sur place, envoyé dans un conflit avec des modes de transmission compliqués, est-ce qu'il peut tweeter, est-ce qu'il peut écrire, est-ce qu'il peut faire de la radio, est-ce qu'il peut filmer, enfin, tout ce qui est une rentabilité dont parlait Didier Migaud. Et ça se pose un véritable problème journalistique, un problème de statut et un problème de définition de la profession, qui est complètement en train de changer, qui a ses avantages avec le numérique, on voit bien, bon, les possibilités d'accès, d'informations immédiates, mais de l'autre côté, qui a des obligations qui font que le métier est complètement changé maintenant.
Mais il y a aussi des modes de consommation qui deviennent totalement différents avec les supports. Il n'y a plus de linéarité, ce n'est plus linéaire. Il faut bien qu'on arrive à s'adapter, Alain Le Gougec, même si je sais que c'est très compliqué.
Ouais,
moi pour la radio et pour la télé.
Moi, je crois que pour la radio comme pour la télé publique, on fait les mauvais choix. C'est un point de vue très personnel, hein. On fait les mauvais choix parce qu'on est dans une sorte de fuite en avant. On voit tous les médias finalement jouer la vitesse, jouer la montre. Ce sera celui qui informera le plus vite, ce qui fait qu'un journaliste qui avant ne faisait que du son fait maintenant du tweet, fait du texte, fait du film, fait de la photo, etc. n'a même plus le temps de faire de l'investigation, de rencontrer durablement ses interlocuteurs sur le terrain. Je crois que la force du service public, ce serait justement de prendre son temps. Et on devrait donner aux journalistes, à tous ceux qui travaillent dans ces médias télévisuels ou radiophoniques, le temps de travailler, de faire du magazine, du beau magazine, bien mixé, etc. Prendre les choses en profondeur. Vous savez, sur l'antenne de Nater, on dit que la matinale de Patrick Cohen, entre 7h et 9h, est la plus écoutée de France. On n'arrête pas de se gargariser de ça, c'est très bien. Je m'en félicite moi-même, j'en suis ravi, puisque c'est ma chaîne. Mais pourquoi ? Parce qu'il reçoit des gens, parfois des intellectuels, des... on va prendre un sujet, on va prendre la hauteur nécessaire, on va essayer de l'explorer, on va le décliner au fil de la journée, etc. Je crois que les gens aiment beaucoup ça. Ça leur donne des éléments de réflexion. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on produisait de la culture et que la culture produisait de la conscience, on est exactement dans ce cahier des charges-là. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait insister. Donner le temps aux journalistes de travailler et donner des produits diffusables qui puissent permettre d'avoir suffisamment de recul sur les choses et pas être sans arrêt dans cette frénésie-là qu'on a dénoncée récemment au mois de janvier lors des attentats de janvier en pointant du doigt BFM ou e-télévision. Tout le monde est coupable dans cette histoire, on n'a plus le temps de vérifier les informations.
Oui, mais enfin, il y a quoi ?
Daniel Pseniniazzi.
Ce journalisme du clic, comme on dit, qui permet de faire de la rentabilité sur les sites Internet, c'est encouragé. Donc, à partir de là, effectivement, il y a un changement total d'investissement et de savoir comment on travaille.
Thibault Henton, vous êtes intéressé à une image choc et inédite, la cyberattaque de TV5 Monde par des pirates qui se réclament du groupe État islamique.
Oui, ce piratage de TV5 Monde a touché le système informatique de la chaîne internationale francophone, mais aussi ses différents comptes sur les réseaux sociaux, et enfin et surtout son système d'information, ce qui est inédit, digne de V pour Vendetta, empêchant la diffusion des programmes pendant plusieurs heures. Alors, la situation a beau être inédite, elle n'en est pas moins banale, figurez-vous. Comme l'écrit reflet.info, un site tenu par des gens qui s'y connaissent en sécurité informatique et qui qualifie l'épisode de « banal piratage monté en épingle par la classe politique ». Pas moins de trois ministres se sont déplacés au siège de TV5 tout de même pour crier au cyber-djihad. Des hauts cris et de grandes déclarations abstraites sur la liberté d'expression qui ne trompent personne au moment où le projet de loi sur le renseignement du ministre de l'Intérieur, qui devrait conférer des pouvoirs de surveillance étendus et hors de contrôle aux services de police, doit être discuté à partir de lundi à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale devant laquelle une manifestation est d'ailleurs prévue lundi donc à 12h30. Et ce n'est pas sans lien avec notre sujet du jour, figurez-vous, Frédéric, car d'où vient Dominique Jean Chartier, le médiateur nommé par le ministère de la Culture pour renouer le dialogue social au sein de Radio France?
On a entendu son portrait. Un homme rompu au dialogue social.
Il vient de Safran, figurez-vous, groupe important de l'industrie de la défense.
Snecma Safran, oui.
Et de la sécurité, dont l'État a récemment vendu une partie du capital. D'ailleurs, Safran, dont l'une des filiales, Morpho, est championne mondiale de l'empreinte digitale. Quelle efficacité, ce médiateur. Il a trouvé la solution à la grève de Radio France et au piratage de TV5 Monde dans le même temps. La biométrie.
Bon, ben si vous le dites, le clin d'œil de la semaine qui a pour point de départ le 16 décembre 2009. Le 16 décembre 2009, c'est le jour de l'inauguration du chantier de réhabilitation de la maison de la radio.
Vous savez que dans quelques minutes va débuter Radio France et que France Inter ORTF va finir. 3, 2, 1, 0. Lundi 6 janvier 1975, ici Radio France, 0 heure.
Écoutez, je suis très heureux de ce chantier parce que c'est une maison que j'aime beaucoup. Le travail mené par le directeur du chantier et la maquette qu'on a pu voir ce matin montrent à l'évidence que ça va être un bâtiment magnifique. Ce sera le même et magnifique et rénové.
Ben voilà, c'est un chantier, ça va être encore plus beau qu'avant, plus moderne. Plus beau. On est ravis, quoi. Mais c'est l'affaire de 2 ou 3 ans, ça dépend du... Parce qu'il y a un phasage compliqué des travaux, puisqu'on est obligé de continuer nos activités pendant cet immense chantier.
Radio France doit faire face à des incertitudes financières, la réduction des dotations de l'État, un déficit de 21 millions d'euros, un budget plombé par le coût exorbitant des travaux de la maison de la radio. Et la polémique autour de la rénovation du bureau de Mathieu Gallet renforce la mobilisation des syndicats.
Moi, je crois que ce mouvement de grève manifeste aussi le souhait de l'ensemble des salariés de parler du service public. Je crois qu'il y a une crise de sens qui est beaucoup plus profonde que cela.
Voilà le clin d'œil de Yacine Bouzard. Merci à tous. L'émission touche à sa fin. Merci à nos invités. Dominique Pradalier, secrétaire général du SNJ, le syndicat national des journalistes et rédactrice en chef à France 2. Alain Le Gouguec, représentant du syndicat Sud, adhérent du syndicat...
Adhérent. Je cotise, c'est tout.
Adhérent du syndicat Sud, rédacteur en chef à France Inter également, président de Reporters sans frontières. Daniel Pseny était également avec nous, spécialiste média au journal Le Monde. Merci également à Christian Delporte, historien des médias et directeur de la revue Le Temps des médias. Nos deux regards extérieurs aujourd'hui, un grand merci à Mariette Darigrand, notre sémiologue au secret, et Thibault Henton pour les images. Et le web dans les coulisses de l'émission Les Indispensables, Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation et le site franceculture.fr avec aujourd'hui aux manettes Alex Dang. Le clin d'œil que l'on a entendu, c'était Yacine Bouzard. Le secret des sources sur France Culture à retrouver sur franceculture.fr. Bonne journée sur France Culture.